nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'Europe, 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 Europe, sans E final. N'empêche, c'était bien l'Europe en marche, en route, en train, qui était en jeu au milieu des années 50. L'Europe des trains de marchandises. La Convention internationale, la Conférence internationale des horaires, le livret des horaires internationaux de marchandises, livret à destination des professionnels bien sûr, mais aussi proposé à la vente au public. Le prochain train, le 59200, qui arrivera à 0h55 à la gare internationale de la Chapelle au nord de Paris. Des endives, des postes de télévision, l'Europe. L'Europe dont la radio des Nations Unies montrait qu'au-delà des traités internationaux abstraits, il y avait la réalité quotidienne et nocturne. Première diffusion sur Paris Inter, le 16 janvier 1956.
Dans la série Documents.
Veuillez écouter un reportage réalisé par la radio des Nations Unies.
Parmi les nombreux organismes de travail créés par les Nations Unies, nous avons choisi aujourd'hui la Commission économique pour l'Europe, qui, comme son nom l'indique, traite de problèmes économiques internationaux intéressant tous les pays européens.
Parmi les nombreux sous-comités spécialisés de la Commission économique pour l'Europe, nous avons choisi aujourd'hui celui des transports intérieurs et sa section spécialisée dans les transports ferroviaires.
Mais pour parler des travaux de la CEE, comme on l'appelle, au lieu d'analyser les traités, les accords et conventions conclus grâce à cet organisme des Nations Unies, nous avons voulu montrer comment se traduisent dans le concret, dans la réalité, ces traités et ces conventions internationales.
Nous avons envoyé notre reporter dans une grande gare de la région parisienne, où il a pris sur le vif quelques images sonores.
Avec lui, nous allons voir comment est prévue l'arrivée d'un train de marchandises, ce qu'il contient, comment on veille sur la santé d'un wagon, autrement dit comment on vérifie s'il a besoin de réparation, et comment, sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe, certains pays européens se sont mis d'accord pour l'utilisation en commun d'un grand nombre de wagons de marchandises.
Nous assisterons ensuite à une visite de douane. Puis nous participerons au déchargement et au rechargement d'un wagon que nous accompagnerons enfin sur la voie de départ.
Pourquoi avons-nous choisi un wagon de marchandises? Eh bien, c'est parce qu'à côté de l'activité la plus spectaculaire des chemins de fer, le transport des voyageurs, le trafic des marchandises représente la plus grande masse des opérations ferroviaires.
À côté du Mistral qui relie Paris à Nice en 11 heures et quelques minutes de plus pour gagner le soleil de Monte-Carlo, à côté de l'Étoile du Nord qui met 3h05 pour aller de Paris à Bruxelles, les lourds convois de marchandises représentent 70% du trafic total.
Et maintenant, en route pour la gare de la Chapelle.
Gare de la Chapelle, par un après-midi d'hiver, froid et brumeux, des voies, des trains, des postes, des aiguillages, des wagons, le tout dominé par la masse immaculée et immobile du Sacré-Cœur. La gare de la Chapelle internationale dessert la région du nord de la France et du nord de l'Europe. Premier point à déterminer, comment les trains arrivent-ils? Question posée à M. Guérin, inspecteur divisionnaire de la SNCF, car tout le monde croit que les trains de marchandises arrivent quand ils peuvent et comme ils peuvent.
Absolument faux. Les trains de marchandises ont un horaire fixé comme un train de voyageurs. Et vous pouvez constater que ces trains de marchandises sont suivis aussi bien que les trains de voyageurs et que leur arrivée est également très régulière. Notre train 59200, train international en provenance du Danemark, à son arrivée fixée à la Chapelle internationale à 0h55.
Et hier soir, il est arrivé à l'heure.
Il est arrivé à l'heure et demain, il arrivera également à l'heure. Train international est particulièrement suivi et il arrive tous les jours à l'heure.
Est-ce qu'il y a d'autres trains qui arrivent à une heure fixe à notre gare?
Il y a un train qui arrive à 1h18, un autre qui arrive à 3h50, un autre à 4h et ainsi de suite.
Et comment sont fixés les horaires de ces trains, surtout les trains de marchandises internationaux?
Par la Conférence internationale des horaires.
Nous voilà dans le vif du sujet. Voilà un élément de coopération internationale, de coopération européenne en matière de transport ferroviaire. Notre reporter a rendu visite au directeur général de la Société nationale des chemins de fer français dans son bureau de la rue Saint-Lazare à Paris. Monsieur Charles Boyot nous donne des précisions techniques.
La Conférence européenne des horaires des trains de marchandises a pour but d'organiser le transport des marchandises en trafic international. Elle s'efforce d'accélérer les acheminements, notamment en aménageant les correspondances aux gares frontières et en créant des trains assurant des relations internationales à grande distance. Cette conférence se réunit deux fois par an. Ses travaux sont concrétisés par la publication du livret horaire international marchandises qui est utilisé par les services intéressés des chemins de fer et qui est également vendu au public.
Bon, et bien maintenant, M. Poulain, chef de gare de la Chapelle internationale, va nous dire quel est le premier train attendu ici.
Le prochain train est le 59-200, qui est messagerie, que nous allons recevoir ici à 0h55.
Est-ce que vous savez déjà exactement le nombre de wagons qui vont vous arriver?
Non, actuellement, nous ne pouvons pas le savoir. Nous saurons la composition vers 21h30, 22h.
Vous aurez à ce moment-là une dépêche qui vous dira le nombre des wagons, mais saurez-vous exactement ce qu'ils contiennent?
Nous ne le saurons que par la fiche que le chef de train nous remettra à l'arrivée du train.
En moyenne, qu'est-ce qu'il y a dans ce train 59-200 qui arrive, si je ne me trompe, de Belgique, plus exactement de la gare de Jeumont, qui est la gare frontière entre la France et la Belgique?
Actuellement, trafic très important d'endives.
Qui viennent de Belgique?
Qui viennent de Belgique, oui. Nous avons des wagons de marée qui viennent de Hollande, nous avons des wagons de moule qui viennent de la Hollande et du Danemark, et nous recevons également du Danemark des wagons de beurre, œufs et fromage.
J'aimerais bien déjà voir quelques-uns de ces wagons dont la carrière internationale nous intéresse particulièrement. Demandons à M. Long, au bureau du mouvement, s'il peut nous indiquer les wagons qui sont arrivés, par exemple, à ce fameux train 59-200 hier soir. Vous avez une fiche, monsieur, une feuille
oui,
sur laquelle je vois...
Europe SBB, c'est un wagon suisse.
Ah, le wagon suisse... Et
numéro 42-470, qui est échangé d'endives.
Donc, il venait de Belgique.
Oui.
Et il est encore ici, il est encore à la Chapelle internationale.
Ah, il a été déchargé aussitôt arrivé.
Mais il n'est pas encore reparti.
Non, il n'est pas encore reparti.
Où est-ce qu'on peut le trouver?
Vous pouvez le voir à la voie 24.
Nous y allons de ce pas. Nous voilà donc sur la voie 24, qui n'est pas tellement loin du poste de contrôle. Et le wagon 42-470, le wagon suisse, wagon Europe, est justement en train d'être visité. Nous demandons aux visiteurs si son wagon est en bon état.
Ben oui, j'ai rien trouvé d'anormal à ce wagon.
Qu'est-ce que vous vérifiez en général?
L'enroulement, le tamponnement, la traction, tout. Les organes de traction, les organes de frein, je dois tout voir.
Et est-ce qu'il y a le moyen de faire des réparations ici, à la chapelle même?
Pas des réparations, mais ça dépend lesquelles. On ne peut pas les faire toutes ici, sur place.
Admettons que ce wagon suisse, dont vous dites qu'il est en parfait état, oui, est une semelle de frein qui ne marche pas ou qui soit insuffisante. Est-ce que vous pourriez la remplacer ici?
Ah oui, j'en remplace.
Quand vous pouvez.
Quand le wagon est chargé, que c'est passé.
Vous avez donc quelques pièces de rechange internationales?
Ah oui, 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 oui. Il y a quelques pièces ici au poste pour pouvoir dépanner les wagons.
Si, dans chaque grande gare de marchandises, comme la Chapelle internationale, le Bourget ou Villeneuve-Saint-Georges, pour ne parler que de la région parisienne, on trouve des pièces de rechange adaptées à des wagons étrangers, c'est que la Commission économique pour l'Europe a aidé à la conclusion d'une convention internationale qui facilite l'importation de ces pièces étrangères en supprimant les droits de douane qu'elles devraient payer en régime ordinaire.
Mais voyons, ce wagon suisse, chargé d'endives en provenance de Belgique, pourrait être réparé à Paris. C'est un wagon marqué Europe. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a d'autres wagons Europe sur cette voie. Celui-ci, par exemple, Monsieur Poulain, celui-ci qui porte Europe, Europe écrit sans E à la fin, et en plus, une grosse lettre B à la peinture jaune.
Cette grosse lettre B que vous voyez indique que ce wagon est de nationalité belge. Le mot Europe nous permet d'envoyer ces wagons dans toutes les régions de France ainsi que sur les régions étrangères.
Je crois que nous commençons à toucher le cœur du problème de la circulation internationale des wagons de marchandises qui fait l'objet de nombreuses conventions internationales. Un petit exposé sur ces conventions serait maintenant fort utile. Justement, j'aperçois M. Potelette, ingénieur au service du mouvement, qui grimpe en ce moment au poste d'aiguillage. Monsieur Potelette, sans interrompre le travail de l'aiguilleur, dites-nous ce que sont les accords sur les échanges de wagons.
Les échanges de wagons en trafic international sont soumis aux dispositions du règlement pour l'emploi réciproque des wagons, dit règlement RIV. Au terme de ce règlement, les wagons sont renvoyés à vide à l'administration propriétaire.
Pour prendre un exemple, imaginons un wagon qui vienne de Luxembourg. Dès qu'il est déchargé, sous le régime RIV, il doit être aussitôt réexpédié à Luxembourg, au besoin, à vide.
Si on ne lui trouve pas immédiatement un chargement, soit dans la gare même, soit à proximité de cette gare, à destination du Luxembourg. C'est afin de réduire de tels parcours à vide qu'on a élaboré la convention dite Convention Europe. À l'origine, les chemins de fer fédéral allemand et la SNCF avaient conclu à titre d'essai en 1951 un accord pour l'utilisation en commun d'un certain nombre de leurs wagons. Cet accord supprimait l'obligation de renvoi à vide au réseau propriétaire. Et depuis 1953, les chemins de fer fédéraux autrichiens, Société nationale des chemins de fer belges, chemins de fer de l'État danois, chemins de fer italiens, Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, chemins de fer néerlandais, chemins de fer de la Sarre, chemins de fer fédéraux suisses, se sont joints au chemin de fer fédéral allemand et à la SNCF pour élaborer la Convention Europe. L'application de cette convention supprime pour les wagons qui ont reçu l'indicatif Europe tout retour à vide.
Il peut se trouver qu'il y a 500 wagons italiens de plus en France qu'il n'y a de wagons français en Italie, pour prendre un exemple bilatéral.
Les administrations participant au pool de la Convention Europe ont un bureau central de répartition qui est situé à Berne et qui est justement chargé de surveiller le parc de chacune des administrations. Lorsqu'une administration a plus que sa part, c'est ce bureau qui prescrit les mouvements à vide nécessaires pour remettre le parc Europe de chacune des administrations au chiffre qui est fixé.
Et ces parcours à vide, naturellement, sont beaucoup plus réduits parce qu'on n'est pas obligé d'aller chercher un wagon belge qui se trouve à Perpignan pour le renvoyer à Bruxelles, mais il suffit d'en prendre un à la frontière française.
C'est exactement ce que nous faisons. Nous donnons des instructions aux gares de la région lilloise, par exemple, pour la région du Nord, aux gares de la région de Charleville ou de Longwy pour la région de l'Est, de manière que les wagons à restituer à la Belgique aient un très petit parcours à faire.
La Convention Europe, voilà le pivot de la coopération internationale. Ce n'est pas le directeur général de la SNCF qui nous contredira.
Les avantages de la Convention Europe portent notamment sur la réduction des parcours à vide des wagons et sur une meilleure productivité dans l'utilisation et la répartition du matériel. Bien que cette utilisation en commun ne puisse porter sur la totalité des parcs, qui sont encore constitués en majorité de wagons anciens, elle est appliquée dès maintenant à 165 000 wagons, assurant ainsi plus de 50% du trafic international.
Depuis de longues années, la Commission économique des Nations Unies a préparé le terrain à la conclusion de la Convention Europe. Les représentants des pays européens, soucieux d'économie et d'une meilleure utilisation du matériel roulant, ont en fait jeté les bases de la Convention. Mais revenons à la gare de la Chapelle. Qui dit passage de frontière, dit douane.
Approchons-nous d'un wagon, celui-là il est néerlandais, il a une cargaison qui nous intéresse un peu. Ce sont des postes de télévision qu'on est en train de décharger et qu'un inspecteur de la douane visite très soigneusement avec, je vois, une masse de papier en main. Qu'est-ce qu'il y a sur ces papiers?
Des factures, alors chaque dossier s'est individualisé, vous comprenez. Alors maintenant je viens de faire des postes de télévision, tout à l'heure c'était des pommes de terre de semences et puis un petit peu de tout.
Vous avez sans doute vu passer des wagons en transit ici à la Chapelle, nous sommes. Par exemple, imaginons des endives belges qui arrivent fréquemment ici, qui sont dirigées peut-être sur l'Italie ou sur l'Espagne et qui passent en transit. Est-ce que les formulaires de douane ne sont pas différents de ceux-là?
Ah si, c'est différent. Pas de vérification, on constate simplement les plans de douane et puis il n'y a pas de vérification de douane.
Mais je crois que grâce d'ailleurs à la Commission économique pour l'Europe, ces formulaires de transit sont maintenant uniformes pour la plupart des pays d'Europe.
Oui, oui.
Et ils sont en combien d'exemplaires?
Il y a enfin le Primata, Et puis il y a un double qui reste au bureau d'émission, et puis le primata qui voyage jusqu'au bureau de destination.
C'est une grosse simplification, je crois, celle-là.
Ah oui, c'est une grosse simplification, oui.
Mais sur un plan plus général, y a-t-il des accords destinés à faciliter le franchissement des frontières, non seulement en ce qui concerne les opérations de douane, mais aussi les contrôles de police? C'est encore M. Boyau, directeur général de la SNCF, qui nous renseigne sur ce point.
La Convention internationale de Genève, du 10 janvier 1952, déjà signée par 7 pays d'Europe, dont la France, a fixé le cadre des accords à conclure entre pays voisins pour l'accélération des échanges. Avant cette date déjà, et dès avant la guerre, des accords avaient été passés entre la France et certains des pays voisins pour simplifier et abréger les formalités aux frontières en reportant sur une seule gare les contrôles des deux pays. La France est maintenant liée, par convention, avec la Belgique et l'Italie pour le fonctionnement de gares frontières uniques, avec le Luxembourg et la Sarre pour l'organisation des contrôles aux frontières. Des accords similaires ont été passés avec certains cantons suisses. Enfin, des pourparlers avec l'Espagne et l'Allemagne occidentale ont déjà permis de juxtaposer les contrôles nationaux dans certaines gares frontières. Les résultats obtenus sont importants puisque la concentration des contrôles dans une seule gare diminue à peu près de moitié les temps d'arrêt à la frontière.
Mais nous nous sommes un peu éloignés de nos wagons. Faisons un petit tour à la halle de déchargement.
Nous sommes maintenant dans la halle de déchargement, la halle numéro 1, où l'on extrait des wagons de marchandises, toutes les marchandises possibles et imaginables, mais nous sommes arrêtés près de caisses qui sont fort sympathiques et qui contiennent ce qu'on appelle des agrumes. Monsieur Braque, chef de manutention, va nous parler un peu de ces très belles caissettes de pamplemousse. D'où est-ce qu'elles viennent?
Elles viennent de Marseille, c'est mon Marseille qui est un point de transit.
Ce sont Israël. Des pamplemousses qui viennent d'Israël et qui sont destinées à un importateur français.
Oui.
Les caisses qui les contiennent sont assez jolies. Est-ce qu'elles sont standardisées?
Elles sont standardisées, oui. C'est une caisse qui est semblable dans toutes les parties du monde.
Qu'est-ce qu'elle a de standardisé? Ses dimensions ou...
Ses dimensions, avec la séparation pour éviter que les fruits s'abîment.
Quel est l'intérêt d'avoir des dimensions standardisées?
Pour le calage dans les wagons. Ça permet d'empiler davantage, de perdre moins de place. Si vous avez des caisses qui sont toutes semblables, vous les entassez comme il faut. Et forcément, au choc, s'il y a un petit choc en cours de route, qui peut bien arriver, ma foi, elle ne tombe pas.
La Commission économique pour l'Europe s'est penchée sur cette question des emballages et des messieurs très graves ont décidé des dimensions et de la solidité des caisses que nous avons.
Ils ont fait l'essai d'ailleurs, oui. Dernièrement, au salon de l'emballage, il y a eu des essais pour voir la solidité, la résistance.
La résistance.
Un saut maintenant à la halle de départ. Voici un wagon tout chargé, prêt à prendre la voie. Il est marqué Europe, encore une fois, et aussi DBGMHS35. Demandons à M. Descarpentries, chef du service commercial à la Chapelle Internationale, de déchiffrer pour nous ces sigles et aussi de nous prédire l'avenir de ce wagon.
DB signifie que le wagon appartient à la Deutsche Bundesbahn, c'est-à-dire à l'Allemagne occidentale. Le numéro, c'est le matricule du wagon. Les lettres qui figurent sous le numéro, la première... G, c'est-à-dire en allemand G, veut dire Gedeckt, wagon couvert.
S20
signifie que le wagon peut circuler dans des trains rapides, c'est-à-dire Schnellzug en allemand, et avec une charge de 20 tonnes. Parce que il arrive assez souvent que la charge normale des wagons ne peut être utilisée à plein lorsque les wagons circulent en régime accéléré.
D'où est-ce qu'il vient ce wagon-là?
Il est arrivé il y a 4 jours chargé de marchandises de détail de l'Allemagne. Et après son déchargement au quai numéro 1 que nous avons visité il y a un instant, le wagon est passé sur une voie où le service du matériel roulant révise le wagon, c'est-à-dire vérifie le roulement, le tamponnement, le crochet de traction. Et il a été passé ce matin sous la halle numéro 2 où nous sommes à présent et nous l'avons chargé de marchandises pour Anvers. Alors, l'utilisation de ce wagon pour Anvers est permise parce que le wagon est en banalisation, c'est-à-dire qu'il porte la marque Europe.
Et voilà, le cycle est bouclé. Nous savons maintenant comment arrivent les trains de marchandises, nous connaissons les moyens d'identification des wagons, nous avons prévu les réparations, nous avons assisté à une visite de douane, au déchargement d'un wagon, nous l'avons vu recharger prêt au départ. Et un ingénieur et le directeur général de la SNCF nous ont parlé de la Convention Europe. Tout ce que nous avons entendu nous montre que les discours prononcés à Genève au sein de la Commission économique pour l'Europe ont pour résultat autre chose que des traités internationaux abstraits. Tous les problèmes du transport de marchandises par voie ferrée sont évidemment loin d'être résolus. Mais ce n'est qu'une raison supplémentaire pour souhaiter qu'une coopération internationale plus étroite permette d'y apporter une solution. La Commission économique des Nations Unies pour l'Europe est le symbole actif de cette coopération.
Vous venez d'entendre un reportage réalisé par la Radio des Nations Unies.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 16 janvier 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.